à voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Julie Gacon rencontre Isabelle Autissier. Ce soir, l'appel à la mer. Bonsoir Isabelle Autissier.
Bonsoir.
Nous profitons de ce que vous n'êtes pas en ce moment sur quelques mers lointaines. Votre bateau est au repos au port de Tromsø, c'est au nord de la Norvège, pour écouter vos récits de tour du monde en solitaire, 15 années de course au large à la voile. Vous avez arrêté la compétition, mais pas les expéditions maritimes que vous partagez depuis quelques années avec des écrivains, des alpinistes, des scientifiques, et dont vous faites bénéficier l'ONG WWF France, dont vous êtes présidente. Les observations inquiètent sur l'état de la mer et ce que vous pouvez constater des effets de l'activité humaine. Alors je dois dire que je suis très impressionnée, Isabelle Autissier, d'avoir l'occasion de me plonger dans vos yeux qui ont vu toutes les mers du monde. Moi qui ne me suis jamais remise, c'est vous dire, de mes lectures des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, de l'Odyssée d'Homère, de Typhon, de Conrad ou encore de Moby Dick, autant de récits de tempêtes, de maelstroms, de froids polaires et de monstres marins qui m'ont terrifiée. Mercredi, nous ne parlerons d'ailleurs que de la tempête. Mais puisqu'il faut prendre l'histoire depuis le début, c'est ici qu'elle a commencé, en banlieue parisienne, où vous nous recevez dans votre maison familiale, où pendant de longues années, bien avant de goûter à la solitude en mer, vous viviez en tribu.
Oui, c'était déjà rare à l'époque, mais mes parents avaient choisi, enfin la famille globalement, avait choisi de vivre avec mon grand-père et ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, ma grand-tante, sa fille et les cinq filles. Donc on était 12 dans cette maison. Ça avait un côté très très chaleureux, effectivement, pour les enfants que nous étions, c'était magnifique d'avoir toutes ces générations et tous ces points de vue.
Donc vous étiez cinq sœurs.
Oui, cinq filles.
Vous êtes la plus jeune?
Je suis la quatrième.
La première fois que vous avez vu la mer, Isabelle Autissier, c'est avec elle? C'est toutes ensemble?
Oui, puisque traditionnellement, vous savez, on était la famille assez classique. On avait la chance de partir en vacances quand même, mais on allait en Bretagne Nord. On a très vite été toujours au même endroit, à Lancieux, donc qui à l'époque était les côtes du Nord, où on louait toujours la même maison. Et je me souviens plus de la première fois où j'ai vu la mer, parce que j'étais sûrement très petite, puisqu'on y allait tous les ans. Je crois me souvenir, parce que faut toujours interroger ces souvenirs de cet âge-là, de la première fois où je suis montée sur un bateau qui était le petit dériveur en bois, qu'on traînait donc de Paris, où on l'entretenait pendant l'hiver, jusqu'à la Bretagne l'été, qui était un vaurien, que papa avait acheté parce que il avait envie de commencer à s'adonner à la voile. Il en avait fait un peu avec des amis, il trouvait ça fantastique. Et puis c'était une bonne activité finalement à faire en famille aussi. Donc voilà, je me suis retrouvée sur cette petite banquette en bois à regarder la mer et à trouver que tout ça était quand même assez formidable. Un peu inquiétant quand même, mais formidable.
Un bateau en contreplaqué que votre papa avait acheté au bazar de l'hôtel de ville.
Oui, il en a acheté plusieurs au bazar de l'hôtel de ville. C'est drôle parce que maintenant, je pense que c'est plus possible. Mais à l'époque, ça l'était. Et effectivement, on passait commande au BHV. Et puis après, on allait les chercher pas très loin d'ici. Il y avait une espèce de grand hangar sur la Marne. Et il en a acheté trois, je crois, successivement au BHV.
C'était le début de la mode de la plaisance. Les années 60.
C'était le moment qui va faire émerger la France dans le nautisme et qui va lui permettre de devenir à la fois le premier pays de fabrication de voiliers au monde, mais aussi le terreau d'une génération de marins de course, et en particulier de course au large, parce qu'il y a eu une conjonction, je pense, d'abord d'industriels, enfin qui étaient à l'époque des artisans, qui se sont intéressés au plastique et qui se sont dit que c'était un bon moyen pour fabriquer des bateaux pas chers. En même temps, on avait après la guerre et dans les années 60, 70, d'excellentes écoles de voile qui formaient des gens. Et puis, on avait quelques modèles, bien sûr Tabarly, bien sûr Moitessier, qui nous faisaient rêver ici au coin du feu quand on lisait ces récits. Donc, tout ça conjugué a fait qu'il y a eu une émergence extrêmement forte en France de la pratique de la voile et aussi beaucoup de cet imaginaire autour de la voile et de la mer.
L'hiver, le bateau était entreposé, nous dites-vous, dans le garage familial. Et vous, Isabelle, vous lisiez. Vous lisiez quoi? Déjà des récits de la mer, Jules
oui,
Verne?
Oui, tout à l'heure, vous évoquiez des grands noms de la littérature maritime. Bien sûr, je les ai lus. Bien sûr, j'ai lu Jules Verne. Et puis, il y avait cette fameuse collection Artaud. Le père de Florence était un éditeur qui adorait la mer et la voile et qui éditait tous les marins de l'époque qui commençaient à faire ces navigations incroyables. Hein. Et donc voilà, la collection Artaud, c'était l'objet des cadeaux de Noël, par exemple. Et donc après, dès qu'on avait son cadeau, ben, on venait dans le salon au coin du feu et on pouvait lire ça et se nourrir de tas de choses qu'on espérait vivre ensuite l'été suivant.
La longue route. C'est un cadeau qu'on vous offre à vos 10 ans, je crois.
Il y en a deux qui vont beaucoup marquer. Il y a La Longue Route et puis il y a l'épopée des Damiens, qui étaient deux garçons qui, sans le sou, avaient construit leur bateau et sont partis faire des aventures absolument incroyables, surtout pour l'époque. Et dans les deux cas, moi, ce qui me retenait, c'est qu'au fond, c'était des gens, c'était le cas de Moitessier aussi dans La Longue Route, qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient que leurs mains et leur tête, et qui finalement se débrouillaient, construisaient des bateaux, partaient à l'aventure et faisaient des choses incroyables, et surtout d'une liberté, et n'avaient pas de barrières finalement, n'avaient peur de rien. Si, ils avaient peut-être peur de certaines choses, mais voilà, se partaient en mer vraiment. Et moi, je trouvais ça formidable, et je me disais, bah, moi, j'en ai pas plus qu'eux, mais après tout, si ça a marché pour eux, peut-être qu'un jour, ça marchera pour moi.
Notre rêve était de partir faire le tour du monde sur un voilier de 10 mètres spécialement étudié et un équipage de 3 garçons d'une même jeunesse. C'est Gérard Genichon qui l'écrit dans Les Damiens. Jeune et décidé, nous l'étions. Nous n'avions pas un sou vaillant. Je n'avais jamais mis les pieds sur un voilier. Et qui plus est, c'est à Grenoble que nous passions des heures le nez sur le bleu des maps mondes. Vous aussi, vous passiez des heures le nez sur le bleu des
oui,
maps mondes.
Et je continue d'adorer ça, je continue de pratiquer ça. Je suis peut-être la dernière en France qui achète des cartes marines en papier. Parce que j'ai un vrai plaisir à toucher ces cartes, à les regarder, à tracer des routes. Bien sûr, je peux le faire sur un ordinateur maintenant, mais c'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. Et c'était effectivement une activité familiale des dimanches en particulier, que de sortir les cartes. Et quand on a commencé, quand surtout mes parents ont commencé à s'aguerrir un peu, à aller de plus en plus loin, en Écosse, en Irlande, en Espagne, ces navigations étaient préparées de manière extrêmement scrupuleuse. C'était à la fois une garantie de sécurité, mais en même temps, c'était un bonheur incroyable. On y était déjà, on voyait les caps, on voyait déjà le vent tourner autour du cap, on voyait déjà la houle arriver, on était déjà dedans. Et je trouve que c'est un pouvoir magnifique de l'imaginaire qu'ont les cartes en général, et les cartes marines en particulier.
Je ne sais pas si vous lisiez Enid Blyton, mais il y a peut-être un petit côté Club des Cinq dans vos premières sorties en mer avec vos parents. Vous allez où? L'île d'en face, c'est Carnac, quoi.
C'est l'équivalent de Carnac. Il y a des petites îles en face. La baie de Lancieux est une baie assez sûre, hein, puisqu'elle est fermée comme ça par des îles. Donc, quand je suis toute petite, oui, le truc, c'est d'aller pique-niquer. Alors ça, c'est l'aventure suprême. On emmène le pique-nique, on mange pas à la maison. On va manger sur la plage de l'île d'en face. Et puis évidemment après, alors je vais un peu m'aguerrir et il y a une année où je vais me retrouver un petit peu toute seule. Mes sœurs aînées grandissent, elles partent un peu en vacances de leur côté. Et je vais donc prendre ce petit voilier soit toute seule, soit avec une de mes amies que je retrouvais tous les étés là-bas. On va faire un peu les 400 coups et on va commencer à s'aventurer toutes les deux au-delà de ces fameuses îles. Avec quelques déboires et parfois des retours nocturnes un peu tardifs parce qu'on avait oublié que le courant poussait pas toujours dans la bonne direction. Enfin voilà, et tout ça évidemment aujourd'hui c'est des souvenirs magnifiques, mais voilà, j'ai beaucoup appris sur le tas en fait.
Vous aviez quel âge à l'époque de ces sorties adolescentes?
Là je devais avoir 12-13 ans et c'est drôle, en repensant à ça, je pense qu'aujourd'hui on taxerait mes parents d'être complètement fous, de laisser leur fille partir comme ça, toute seule, sur un petit bateau. Mais ça faisait pas l'ombre d'un problème. Ils avaient parfaitement confiance. J'avais beaucoup navigué avec eux. Ils savaient où j'en étais. Ils savaient que je pouvais me débrouiller. Que si le bateau chavirait, j'étais capable de le redresser toute seule. Donc voilà, il valait mieux quand même que je sois rentrée avant le coucher du soleil. Ça, c'est les fois où je l'ai pas fait, ça s'est quand même un petit peu moins bien passé, on va dire. Mais voilà, il y avait, et moi j'ai toujours bénéficié de ça, et je leur en sais gré de manière immense, une confiance incroyable. Et bien sûr, ils surveillaient du coin de l'œil, évidemment. Mais ils m'ont laissé faire plein de choses que aujourd'hui on empêche beaucoup les enfants de faire. Et bon, je ne sais pas si c'est forcément bien.
Vous n'avez jamais eu peur de la mer?
Non, enfin, comment expliquer ça? J'ai appris la mer petit à petit. J'ai suis allée de plus en plus loin au fur et à mesure que moi, je me sentais de plus en plus aguerrie et de plus en plus capable de me débrouiller et d'affronter les choses. Et puis, j'ai beaucoup navigué, donc j'ai une vraie familiarité avec cet élément. Et je dis souvent en forme de boutade que je ne peux pas avoir peur de la mer, puisque moi, quand je monte sur un bateau, c'est comme vous quand vous rentrez à la maison. Et vous n'avez pas peur quand vous êtes chez vous. Donc, moi, c'est un peu pareil. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des difficultés, qu'il peut y avoir des dangers. Finalement, je pense qu'il n'y en a quand même pas forcément beaucoup plus que sur l'autoroute du Sud un jour de grand départ. Et que surtout, moi, j'ai une vraie capacité à anticiper, à inventer, à préparer, à faire ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais d'accident, parce que voilà, parce qu'il peut y avoir des conjonctions. Ouais. Mais je sais que je ne suis jamais partie sans être le mieux préparée que je pouvais l'être. Et ça, c'est quand même une garantie de sécurité.
C'est votre père qui vous a appris à naviguer, à barrer. Où est-ce qu'il vous installait? Où est-ce qu'il installait la petite Isabelle sur le bateau familial?
Oui, bah alors au tout début, j'étais assise sur le banc et au tout début, j'avais pas le droit de faire grand-chose, ce qui m'agaçait un peu d'ailleurs assez vite. Et puis oui, après, j'ai commencé à être équipière, c'est-à-dire que je tenais pas la barre, mais je m'occupais des voiles d'avant, hein, du foc. Donc déjà, ça donne l'agilité, ça donne le sens du vent, ça donne le sens de la gîte, du bateau. Et puis petit à petit, assez vite d'ailleurs, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça, j'ai commencé à barrer. Et ensuite, papa, qui était quand même ingénieur de formation, s'est tout de suite appliqué à nous enseigner tous les rudiments de la navigation. Comment on calcule un cap, comment on calcule les courants, comment on calcule des profondeurs d'eau pour savoir si on peut rentrer dans un port ou pas. Et il y avait un tableau noir dans une des pièces de la maison. Et on faisait pendant l'hiver des exercices. Et donc on avait des problèmes de marée, de courant. Et petit à petit, on apprenait tout ça. Et après, évidemment, on le mettait en pratique l'été, mais aussi assez vite l'hiver, puisque assez vite, on s'est mis à naviguer, même à Noël ou même voilà, au mois de février. J'ai des souvenirs magnifiques de neige en mer quand j'étais quand même encore jeune. Voilà, c'était normal, c'était ça, c'était la mer et on apprenait.
Vous apprenez à lire dans le changement de couleur ou le frisolis de l'eau, la renverse de la marée, prévoir l'arrivée de la brise de mer à la netteté soudaine de l'horizon. C'est ce que raconte votre jeune narratrice dans Seule la mer s'en souviendra, le roman que vous écrirez
Oui,
des années plus tard.
c'est exactement ça. Et encore aujourd'hui, je me sers de mes sens aussi pour naviguer, même si, bien sûr, on a des GPS, on a beaucoup de matériel que je ne vais pas renier, qui sont très bien. Mais il n'en reste pas moins que, oui, le changement de couleur de l'eau indique des choses, que le clapot plus ou moins violent ou la mer orientée comme ci et comme ça indique des choses, et que c'est à la fois un plaisir d'être capable de lire dans ces signes-là, et en même temps assez indispensable pour naviguer correctement.
Entre-temps, votre famille troque le vaurien, le dériveur familial, avec un corsaire, le corsaire Saint John, en référence au poète de la mer.
Oui, papa a toujours adoré la poésie, il en écrivait un peu d'ailleurs. Un de ses poètes préférés était Saint John Perse, donc le bateau s'est appelé Saint John, et celui-là aussi venait du bazar de l'hôtel de ville.
Et votre père écrivait des poèmes sur la
Oui,
mer?
sur la mer et sur différents sujets, mais oui, il aimait bien ça.
Et votre père, Isabelle Autissier, pourquoi la voile, pourquoi le bateau, la mer?
Je ne sais pas, il faudrait lui demander parce que il est Auvergnat, donc de famille, et il a passé toute son enfance en Auvergne. Non, je crois que c'est simplement des amis qui l'ont emmené comme ça, amicalement, et je pense qu'on partage ça. Il a été très saisi par la mer, et quand il en parle ou quand il écrivait des poèmes, c'était quand même vraiment ce sentiment de tout d'un coup trouver une familiarité, trouver quelque chose qui vous touche profondément, qui fait que vous vous reconnaissez quelque part dans ce milieu.
J'ai épousé la mer cette nuit, à l'heure où la côte s'éclaire. La mer ne m'a rien demandé, ni d'où je viens, ni qui j'ai aimé. Elle a rempli ma bouche de son sel et mon esprit de son silence.
Voilà, c'est un poème qu'il a écrit et c'est un des poèmes que je préfère de lui, enfin un petit extrait d'un poème, parce que ça dit exactement ça. Ça dit combien il y a juste à lâcher prise, à se laisser aller à cet environnement, à cet élément, à soi-même aussi. Il y a là encore une notion de confiance, finalement, de confiance en soi, parce qu'on sait que voilà, on est bien en mer. Et d'une forme de confiance dans l'élément, dans la vie, dans... Et j'ai toujours pensé que c'était très important. Je pense qu'on ne navigue bien justement que quand on lâche prise, quand on a cette faculté d'arrêter de tout vouloir contrôler, minuter, même si bien sûr il y a des moments où il faut le faire. Enfin, on a besoin d'être précis parfois, mais la mer est un milieu naturel et quand je vais dans ce milieu naturel, je dois en accepter a priori l'ensemble des règles du jeu. Donc, j'ai pas à chercher à imposer ma volonté. J'ai pas à chercher, d'ailleurs, je peux pas. J'ai pas à chercher à changer les choses ou à ça sert à rien que je m'énerve ou que je m'angoisse. J'ai juste à rentrer dans cet élément, à me couler dedans en quelque sorte et à décrypter ce qui se passe, à en faire mon miel. Et là, je vais bien naviguer. Parce que je suis en phase, en fait.
Alors, vous avez coutume de dire, Isabelle Autissier, que vous avez plusieurs vies et que votre première vie est une vie de scientifique. En 1978, à 22 ans, vous êtes diplômée ingénieure agronome spécialisée en halieutique, la discipline qui s'intéresse à la pêche et aux poissons. Et vous commencez votre carrière comme enseignante à La Rochelle.
Alors avant, j'ai passé du temps en Bretagne pour le comité régional des pêches, c'est-à-dire vraiment directement pour les professionnels, et j'ai adoré aussi ce moment-là. Et puis j'arrive à La Rochelle, oui, pour être enseignante à l'école maritime. À vrai dire, c'est juste parce que je veux un métier au bord de la mer. Je veux garder le contact avec la mer et je me dis, ben voilà, ce métier d'ingénieur halieute, c'est une façon aussi de me projeter dans l'univers maritime.
C'est déjà un milieu d'hommes ?
Oui, à l'époque, je fais l'agro, on doit être 3 filles sur 100. Je me retrouve après dans les milieux de marins pêcheurs où vous êtes à 0,001% de femmes. Et après la course au large, ce sera pas beaucoup mieux.
L'enseignement vous plaît ?
Oui, c'est du théâtre, l'enseignement. Il faut captiver son public, ça m'amuse beaucoup. J'ai un rapport de proximité assez fort avec mes élèves. Ça va être des belles années, d'autant que je suis dans une zone où il faut un peu que j'invente. Les cours et la formation, donc ouais, ça me plaît pas mal.
Vous travaillez ensuite pendant plusieurs années pour le comité régional des pêches de Bretagne, puis pendant 3 ans pour l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer qui continue à vous appeler la nuit.
Oui, est-ce qu'elle m'appelle la mer ? Non, je pense que...
C'est vous qui l'appelez alors ?
Oui, c'est peut-être moi qui l'appelle. En fait, je pense que quand je regarde ma vie aujourd'hui, c'est vrai que tout a tourné autour de la mer. À des titres différents. Cette première période, qui est une période donc plutôt scientifique et professionnelle, non pas que j'étais pas après professionnelle de la course, mais en tout cas avec mon diplôme, en utilisant mon diplôme, c'est important parce que c'est un autre regard. Je m'intéresse aussi beaucoup, même quand je suis assez jeune et adolescente, aux questions politiques, aux questions économiques. Donc là, j'ai aussi cette ouverture sur un monde professionnel et qui d'ailleurs, quelque part, me sert aussi aujourd'hui dans ce que je fais sur l'environnement. Mais c'est vrai que c'est toujours la mer. Il n'y a pas un moment où j'ai pu envisager d'avoir une activité soutenue qui soit totalement déconnectée de la mer.
Et donc là, il faut vous imaginer la nuit construisant seul ou pas, je sais pas, racontez-nous votre bateau, votre premier bateau.
Oui, parce
bateau.
Que je fais donc partie, comme les gens que j'admire, de ces gens qui n'ont pas le sou et qui veulent naviguer. Et la meilleure solution, c'est de prendre un tas de tôles et un plan et d'en faire un bateau. Donc je me lance là-dedans avec mon compagnon de l'époque, qui arrive de la montagne, donc qui n'y connaît rien du tout. Et on fait ça quand je travaille pas, c'est-à-dire que je fais ça le soir, le week-end, en partie les vacances. Oui, c'est une espèce de double activité qui fait rire tout le monde, parce que j'arrive au boulot le matin avec des fois les mains soit pleines de coupures, soit avec encore du Sikaflex ou des choses comme ça sur les mains. Mais voilà, et je sais que je suis en train de construire ma... Je suis à la fois en train de faire un métier que j'adore, mais quelque part, j'ai déjà dans la tête que ce métier d'halieute, je vais pas le faire tout le temps. J'ai déjà dans la tête l'idée que Je suis en train de me fabriquer un bateau parce qu'au fond, l'idée du large, l'idée du départ, l'idée du grand voyage, l'idée de l'immersion pendant longtemps dans ce milieu maritime, c'est quand même ça qui me fait rêver.
Mais comment on fabrique un bateau ?
Avec un plan, alors moi j'ai choisi une méthode de faire un bateau en acier qui était un petit peu plus simple, peut-être un peu plus bruyante et plus sale que d'autres types de construction. Mais voilà, on va acheter des tôles et puis après on les soude entre elles. Et puis après, moi j'ai heureusement toujours adoré bricoler, même quand j'étais toute petite fille. J'ai eu beaucoup plus de mécanos, de trains électriques et de boîtes à outils que de poupées, parce que j'ai toujours adoré faire des choses de mes mains. Donc là, c'était grandeur nature. Et puis, j'étais dans un milieu, à ce moment-là, c'est quand je suis arrivée à La Rochelle, et il y avait pas mal de constructeurs amateurs. Il y avait un endroit de La Rochelle qu'on appelle la Ville en Bois, qui maintenant a été complètement réhabilité, qui à l'époque étaient des vieux hangars dans lesquels, quand vous passiez la porte, vous trouviez 2, 3, 5 bateaux avec des gens comme moi qui s'escrimaient pour construire leurs rêves. Donc il y avait beaucoup d'entraide et il y avait beaucoup de choses faites en commun, ce qui était aussi sympa.
À La Rochelle, dans le vieux port de La Rochelle, il y a aussi ces vieux gréements que vous alliez regarder, admirer, dont vous alliez observer les manœuvres. Alors, ça vous faisait rêver ?
Oui, les vieux gréements, ça fait rêver parce que, en fait, le vent et la mer n'ont pas changé. Et quand on est marin aujourd'hui, au 21e siècle, avec tout ce qu'on a comme instruments, puis des bateaux extrêmement rapides et sûrs, on est quand même assez fasciné par ce que faisaient donc les gens de cette époque. Et c'est toujours un plaisir de voir ces bateaux, d'aller... Moi, j'ai suivi, par exemple, la construction d'Hermione, et je suis allée discuter avec le commandant, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir... qu'au fond, la communauté des marins, elle n'a jamais changé, parce que la mer n'a pas changé. Par contre, évidemment, les techniques, elles, ont beaucoup évolué.
C'était une époque où on considérait la proximité d'une dépression par le taux d'humidité d'un torchon à vaisselle.
Oui, ça, c'est ce que raconte moi Tessier. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est pas un instrument extrêmement précis. Mais bien sûr, quand la dépression arrive, on est dans une atmosphère plus humide. Et donc, les torchons sales sont plus mous que quand on est dans de l'air sec. Mais
il paraît aussi que l'Argentin Vito Dumas, qui s'est lancé en mer en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, avait pour seul équipement un imperméable qu'il bourrait de papier journal.
Vito Dumas est un personnage incroyable. Et effectivement, il traverse l'Atlantique de la France pour rentrer chez lui en Argentine, en plein hiver. Il n'a pas un sou. Et il a repéré que des clochards se mettent des épaisseurs de journaux autour d'eux parce que tout simplement les feuilles du journal emprisonnent l'air, donc c'est un isolant. Et comme il n'a pas un sou, il embarque plein de journaux et il traverse l'Atlantique avec ses couches de journaux à même la peau et un vieux ciré par-dessus. On a quand même heureusement des méthodes un petit peu plus faciles maintenant, mais c'est vrai que ces gens étaient des pionniers incroyables.
Et alors vous, qu'est-ce que vous embarquez puisque vous commencez à rencontrer à La Rochelle des marins qui reviennent ou qui partent pour une course? Et la compétition, la course commence à faire son cheminement dans votre tête et vous vous préparez à la course.
En fait, c'est des amis, j'ai en particulier deux amis assez proches qui viennent à La Rochelle pour préparer un bateau de course dans une course qu'on appelle familièrement la mini transat, donc qui est une transat en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m. Et j'ai au fond la même réaction. Je vais les voir, bien sûr, je vais les voir préparer leur bateau. Je me dis, mais c'est trop drôle ce truc. Tout petit bateau, finalement, ça coûte pas si cher que ça, et puis on peut faire une course. Voilà, je me dis, mais c'est à ma portée, surtout que c'est une époque où j'ai donc fini de fabriquer mon fameux bateau que je faisais le week-end.
Parole,
je suis partie avec, j'ai allé jusqu'au Brésil, je suis revenue toute seule, j'ai traversé l'Atlantique toute seule. Donc la marche d'au-dessus, en quelque sorte, c'est-à-dire de refaire ça en course, me paraît pas démesurée. Et puis je suis un peu entraînée, oui, par l'excitation qui vive même de préparer ce bateau, de partir, je vais agiter mon mouchoir quand ils partent. Et voilà, et je me dis, mais ça c'est pour moi. Et puis il y a autre chose aussi qui va être très important, c'est que je vais donc faire avec Parole un grand voyage de presque un an. Et quand je rentre à La Rochelle, je suis saisie vraiment par une chose, c'est qu'il n'y a rien qu'à bouger. Il y a les mêmes gens aux mêmes endroits qui font les mêmes choses et qui racontent les mêmes choses. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas. Je veux bien un tout petit peu parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais je peux pas avoir ça comme horizon. Donc, je vais repartir tout de suite. Et là naît cette espèce de conjonction entre le besoin de repartir avec une expérience qui sera différente de celle que j'ai déjà vécue, qui était une expérience de croisière. Et donc voilà, l'idée, c'est, le prochain coup, je le fais en course.
Et Parole, alors ? Qu'est-ce qui devient dans tout ça, votre bateau ?
Parole va se suicider.
Pardon ?
J'ai dit familièrement qu'il s'est ouvert les vannes. Non, en fait, c'est très drôle. Pendant que je vais faire cette première course, j'ai laissé donc Parole dans lequel je vis, dans lequel j'habite, parce que ça me fait des économies. Je le laisse au port de La Rochelle et par beau temps, un jour, mystérieusement, le bateau va couler tout seul au ponton. Et personne ne comprendra jamais pourquoi. L'expert ne trouve pas de fuite, pas de rien, tout va bien. Mais le bateau a coulé au ponton. Et donc j'en ai déduit que ce bateau m'avait fait une crise de jalousie, que j'étais partie avec un autre bateau et qu'il ne l'avait pas supporté.
C'était une vraie histoire d'amour avec Parole, avec des voyages de noces.
Mais j'ai toujours eu des histoires d'amour avec mes bateaux parce que les bateaux, même si on n'en est pas dupe, c'est bien de prendre les bateaux pour des personnes, c'est bien de leur trouver leur petit caractère. Voilà, ça permet aussi, après, surtout quand on navigue en solitaire, ça permet de créer quelque chose, d'avoir une sorte d'humanité dans le rapport avec un bateau.
Alors petit à petit, vous vous préparez à la course. Combien de calculs faits et refaits, combien d'heures de sommeil grappillées, combien de discussions à n'en plus finir avec ceux qui construisent le bateau ou avec vos sponsors que vous devez convaincre de vous aider à partir.
La première chose, c'est qu'effectivement, il y a feuille blanche. J'aime bien ça, au fond. Il y a feuille blanche, je suis pas connue, j'ai pas un sou, j'ai pas beaucoup d'expérience, très peu en course, j'ai de l'expérience de navigation. Mais j'ai pratiquement pas d'expérience de course. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc là aussi, le soir et le week-end, je fabrique un petit dossier, j'essaye de téléphoner à tout le monde, d'envoyer mon dossier partout. En même temps, à La Rochelle, je me propose pour être équipière sur les régates, j'essaye de rentrer dans le milieu des gens qui font cette course. Voilà, et je crois que dès le début, j'ai ce sentiment, et je crois que c'est vraiment important, qu'il faut regarder l'étoile qui est tout en haut, mais il faut pas se dire qu'elle est loin. Il faut juste se dire qu'il faut avancer un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et que les problèmes se résolvent petit à petit. Que si on prend le problème dans sa globalité, on se dit « j'y arriverai jamais ». Donc à ce moment-là, on reste chez soi. Si on se dit « je vais essayer d'apprendre un peu mieux à naviguer, puis après je vais essayer de trouver un peu de sous, et puis après je vais faire ça, et puis voilà ». Alors après, c'est vrai que c'est totalement chronophage et que ça prend tout votre temps, et que dès que j'ai commencé à rentrer dans cet univers de la course au large, j'ai fait que ça, quasiment. J'ai arrêté de travailler. Quand je me souviens, c'était un petit peu plus tard, quand j'ai trouvé de l'argent pour faire le tour du monde, je travaillais encore et je suis allée voir mon directeur et je lui ai dit « Monsieur le directeur, la semaine prochaine, je ne viens plus travailler parce que je pars faire le tour du monde ». Voilà, c'était comme ça et il n'y avait pas à discuter, quoi. C'était j'ai trouvé une remplaçante, mais voilà, je crois qu'il faut à la fois une espèce de détermination totale, donc de regarder tout le temps l'étoile et en même temps de côté un peu, j'allais dire presque besogneux, pour prendre les problèmes les uns après les autres.
Et puis il y a tous ceux qui sans doute ne comprennent pas pourquoi vous voulez vous lancer dans cette aventure, qui doivent la trouver peut-être inutile.
Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais je ne leur ai pas demandé leur avis, donc comme ça j'avais pas de problème. Ma famille, quelque part, je les ai aussi un peu mis devant le fait accompli. Je leur ai dit, je pars faire ça. Bon, en même temps, surtout papa, qui adorait le bateau, mais même maman, même mes sœurs. Encore une fois, la confiance a toujours été tellement forte que ça s'est plutôt bien passé. Ils ont été mes premiers supporters, évidemment. Et il n'y en a jamais un ou une qui m'a dit, fais pas ça, justement, t'es complètement folle. Et si d'autres gens l'ont pensé, c'est pas grave.
Vous nous embarquez demain dans votre tour du monde ?
Bienvenue à bord.
Merci Isabelle Autissier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Julie Gacon avec Isabelle Autissier. À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.